Palais, résidence royale des souverains français du Moyen-Âge depuis quelques dizaines d'années, est délaissé. Alors que le cœur du pouvoir y battait continuellement, règne après règne, les siècles précédents, ce sont aujourd'hui les toiles d'araignée et l'obscurité des couloirs fermés qui y règnent en maître. La Fronde est passée par là. Louis XIV, dans sa volonté de museler une noblesse qui pourrait lui échapper, a déplacé le palpitant du pays plus au nord, à Versailles. Le Palais des Lumières a pris toute la luminosité du soleil qui s'est détournée du séculaire Louvre, symbole fantoche d'une capitale qui ne l'est plus vraiment. C'est pourtant en son sein que nous nous retrouvons aujourd'hui, où des pas nombreux résonnent dans les travées. Protecteur de l'Académie française, Louis XIV a permis à la compagnie de se réunir à demeure dans l'un des salons couvrant l'une des ailes du Louvre. Les 39 membres se pressent pour s'installer. Ils sont les plus grands esprits du royaume. Et aujourd'hui, après bien des atermoiements, ils accueillent leur 40e et nouveau membre. Non, ce n'est pas n'importe qui, loin de là. C'est un ennemi du roi et de sa politique. Oui. Il s'appelle Jean de La Fontaine. Et caché derrière ses fables, il remporte ce jour-là la plus belle de ses victoires. Nous sommes le 2 mai 1684. Il est 15h et c'est l'heure H de mon histoire. C'est un foutoir sans nom. Y circuler est un enfer qui rompt toutes les barrières des privilèges, ou presque. Le poète a tout de même la chance de rouler dans un break tiré par deux chevaux lancés à pleine vitesse. Le cocher, qui semble tout droit sorti de la gueule de Lucifer, un chapeau haut enfoncé sur le crâne, matraque les flancs des pauvres bêtes exténuées et transpirantes. C'est un chaud printemps qui s'offre aux Parisiens et au sujet de Louis XIV. De La Fontaine, les mains moites, réajuste son immense perruque qui lui descend sur les épaules. Propre comme un sou neuf, il s'apprête à vivre l'un des moments les plus importants de sa vie, l'un des plus improbables aussi. Voilà des mois qu'il attend avec une impatience non dissimulée la possibilité de siéger parmi ses pairs qui l'ont élu voilà près d'un an. S'il est officiellement l'un des membres de l'Académie depuis le 15 novembre 1683, ce fut pour Jean de La Fontaine un véritable chemin de croix. Ah, Louis XIV ne l'aime guère, mais le poète n'est que poète, alors que le roi, lui, est Dieu le Père pour tous ses sujets, même les plus malins. Et Louis XIV a beau être vieillissant, il n'en est pas moins vif et impitoyable. Voilà que les chevaux accélèrent. La rue se dégage de ses passants et de ses marchands. Ah, c'est toujours la même histoire. En rebondissant sur les pavés, l'une des roues du break manque de se briser. Un peu plus loin, une épave de calèche indique qu'un cocher a précédemment eu moins de chance. Jean de La Fontaine, les yeux dans le vague, observe avec détachement la vie de ses habitants. Malheureux comme les pierres, lésés de leurs revenus par les impôts successivement levés, torturés par une promiscuité qui favorise les crasses et les maladies. Là, une mégère vide son pot de chambre par la fenêtre de sa masure, sans même se soucier du bourgeois qui passe en dessous. De l'autre côté de la rue, une femme avec son bébé manque de se faire renverser par un convoi lancé à vive allure. Paris est bruyante, sale. Paris est une fourmilière qui se cherche un but et qui vit déjà sur les charbons ardents d'une certaine colère. Ne nous y trompons pas, Jean de La Fontaine n'est pas un homme du peuple. Du moins, pas de ce peuple-là. Il a pourtant le regard libre, l'esprit clair, sain. La noblesse empoisonnée, emprisonnée à Versailles, ne voit déjà plus que ses errements vont la conduire doucement à sa perte. Encore là. Aujourd'hui, sous un soleil qui se voile d'aigreur et de rancune, l'un des poètes les plus célèbres de l'histoire de France file vers son jour de gloire. De sa canne ciselée, Notre homme frappe sur le dessus du toit. C'est le signe que le cocher doit accélérer. Ah, le pauvre diable fait ce qu'il peut. Les rues sont soit trop étroites, soit impraticables. Pour autant, chaque mètre rapproche Jean de La Fontaine de son objectif. En regardant par la fenêtre de l'habitacle, il peut remarquer déjà les toitures du palais du Louvre. Le poète est tout proche d'obtenir ses 63 printemps, ce qui, pour l'époque du Roi Soleil, est une petite performance. Les maraudes dans les villes et ceux travaillant dans les champs, eux, n'ont généralement pas cette chance. Les rides sur leur visage de travailleurs acharnés n'ont guère le temps de se tracer. Et puis, bien souvent incapables de lire ou d'écrire, ils n'auront jamais le privilège d'accéder à la position des lettrés et des poètes. Celui incarné par l'immortalité des mots et des pensées rédigées sur le papier. Après la mort du corps physique, reste la pérennité de l'esprit. Et aujourd'hui, plus encore que le reste, l'entrée à l'Académie de La Fontaine forme une nouvelle étape dans ce processus de sacralisation de ce qu'il représente. Aux grandes dames, il le sait, de Louis XIV lui-même. Le Louvre ne tarde pas à être en vue. Le cocher tire sur ses guides. Les morts des chevaux s'actionnent et les animaux, dociles et bien heureux d'achever cette course folle, se stoppent sur le parvis du palais, immense, immobile, endormi. La Fontaine descend de sa calèche, remercie le chauffeur, qui répond par un imperceptible grognement. Le poète file vers son destin. Il semble avoir 20 ans. Ses chaussures finement taillées, aux talons immenses, résonnent dans les couloirs en direction du salon de l'Académie comme de véritables coups de canon. Jean de La Fontaine, humble mais triomphant, s'annonce. Il est accueilli par les 39 autres qui, soulagés pour la plupart de le voir entrer dans cette pièce, sont des plus chaleureux avec lui. L'affaire La Fontaine est pour l'Académie l'une des plus grosses batailles qu'elle aura eu à mener dans son existence. Fondée officiellement par le cardinal de Richelieu, placée sous sa protection jusqu'à sa mort, l'institution est passée de lieu en lieu avant de se réunir chez le chancelier Séguier, qui l'a prise en charge avant d'avoir la mauvaise idée de mourir en 1672. C'est alors le souverain lui-même, honneur ultime, qui s'était conféré le rôle de la protéger. Mais l'honneur, rapidement, s'est aussi transformé en labeur et en contrainte. Avec un œil fixé sur l'Académie, le soleil est en droit de lui imposer ses volontés les plus strictes et les plus affirmées. Alors, lorsque les académiciens ont souhaité y voir entrer La Fontaine, cela a fait frémir à Versailles. Le roi n'aime pas cette littérature qu'il juge opposée à son régime. Et la femme qu'il a secrètement épousée, Madame de Maintenon, non plus. Voilà qui rendait la nomination de l'homme de lettres particulièrement difficile à imaginer. Pourtant, voilà qui est assez rare pour être souligné, le pouvoir a fini par céder. C'est donc un poète triomphal qui s'installe dans le siège qu'on lui a attribué. Le numéro 24, comble de l'ironie. Celui qui l'occupait jusqu'alors était un certain Colbert, ministre favori de Louis XIV et ennemi mortel de La Fontaine. Encore chaud de la présence de son prédécesseur, inutile de préciser que le poète est ravi de pouvoir lui succéder à cette place. Quelle éclatante victoire! Son art est placé au panthéon de ce qui se fait de mieux dans le royaume de France. Son discours de réception à la tribune est empli pourtant d'une humilité sincère, celle d'arriver dans un cercle d'esprit qu'il estime plus haut et géniaux que le sien. Ses paroles sont aussi celles d'une déférence obligée envers un souverain avec qui les rapports sont tendus. Louis XIV, malgré sa réticence, a tout de même validé l'entrée de La Fontaine parmi les grands esprits. L'ombre du soleil plane sur le Louvre. Et s'il n'honore pas ses sages des arts de sa présence en ce jour spécial, chaque prononcé dans cette assemblée lui sera rapporté. Alors, la fontaine s'incline, au moins en apparence, concluant sa prise de parole passée à la postérité par ces quelques mots. Quand je considère toutes ces choses, je suis excité de prendre la lyre pour les chanter. Mais la connaissance de ma faiblesse me retient. Il ne serait pas juste de déshonorer une si belle vie par des chansons grossières comme les miennes. Je me contenterai, messieurs, de goûter la douceur des vôtres, s'il m'est impossible de les imiter. La seule chose dont je puis répondre n'est de ne manquer jamais pour vous ni de respect, ni de gratitude. Sa place dans l'histoire venait d'être faite, et le crépuscule de sa vie, après bien des combats, sera celui de la panthéonisation, des mots et de l'esprit. Nous sommes le 11 novembre 1647. Jean de La Fontaine se réveille de bon matin au cœur de son fief familial, se trouvant à Château-Thierry. Son père, bourgeois de la localité, possède une grande et belle demeure. Respecté et passionné par la charge qu'il occupe, le paternel de notre héros du jour régente la vie de ses enfants et de sa famille depuis toujours. C'est à lui qu'incombe les destinées des siens. Jean, 26 ans, n'échappe pas à cette règle. En tant qu'aîné, c'est à lui que revient la tâche de succéder à son père. Pourtant, le jeune homme, malgré cette pression ressentie sur ses épaules, est du genre à ne pas se soucier de ses obligations, présentes ou futures. Il vit jour après jour, de la manière dont il l'entend. Il fait beau ce matin, et malgré la fraîcheur de l'automne galopant qui colle aux joues et aux mollets, le jeune homme est pris de l'envie de se balader dans le jardin de la propriété. La nature défraîchie, celle des branches nues et des feuilles mortes, a toujours eu sur lui un effet des plus vivifiants. Alors, il s'habille à la hâte, se chausse et descend les escaliers qui mènent vers le corridor. Là, dans la lumière du jour, il tombe nez à nez sur une jeune femme qui, portant une jolie robe, contemple les tableaux de ses aïeux. Le jeune homme ne la reconnaît pas. Elle lui semble bien jeune. Elle a un joli minois, certes, mais son visage reflète quelque chose d'assez insipide. Enfin, du moins, c'est son impression. N'en oubliant néanmoins pas les convenances, Jean la salue d'un grand sourire. « Madame, en quoi puis-je vous aider ? Auriez-vous par hasard un rendez-vous avec mon père ?» En face de lui, l'adolescente se redresse. Du rouge lui vient toujours. Elle semble courroucée. Le jeune homme, lui, se retrouve démuni, ne sait pas comment réagir. À tout hasard, lui vient une parole qu'il estime rassurante. « Je suis navré, madame. Vous aurais-je offensé ?» Cette fois, son interlocutrice n'y tient plus. Redressant le menton aussi haut qu'elle le peut, elle explose. « Enfin, monsieur, hier nous étions chez le notaire. Mais voilà votre épouse depuis 24 heures et vous m'auriez oublié ?» Marie et Ricard ne laissent pas au goujat la possibilité de se sortir du bourbier. Elle tourne les talons et s'en va sans sourciller. Jean de La Fontaine s'est marié la veille. Il ne s'en souvient plus. L'anecdote folle et pourtant bien réelle, du moins si l'on en croit Patrick d'André, doit nous éclairer sur la personnalité unique en son genre et même unique au monde, du poète Jean de La Fontaine. La distraction qui semble ici amusante est autrement plus importante tout au long de sa vie. La Fontaine, distrait, rêveur, l'assume parfaitement et dicte son existence suivant ce principe de se laisser aller sans trop se soucier des conséquences ou en prônant le manque d'attention. Ce manque de sérieux, diraient certains, est indubitablement l'une de ses forces motrices. Mais pour comprendre vraiment qui est La Fontaine, il faut débuter par le commencement. Né à Château-Thierry, non loin de Reims, en 1621, Jean de La Fontaine a eu la chance de voir le jour dans une famille aisée, pour même dire bourgeoise. Son père est un homme qui sait tirer toutes les ficelles de l'administration afin de connaître une ascension continue et impressionnante. Sa principale technique, sous le règne de Louis XIII, est celle d'acheter des charges, c'est-à-dire d'obtenir des fonctions administratives et étatiques au niveau local, en achetant, si l'on peut dire, sa fonction et son métier. Il devient notamment maître des eaux et des forêts, ce qui déjà peut nous amuser tant la faune du monde prend une place centrale dans les fables de La Fontaine. Le jeune Jean, lui, se dirige vers des études de droit qui sont réservées exclusivement à des enfants nés de familles bourgeoises et lettrées. Il montre des aptitudes très fortes en la matière et son père, ravi d'en avoir fait un juriste de formation, ne se cache pas sur son objectif. Il veut faire de son fils le successeur de sa charge des eaux et des forêts. Cette passation de père en fils, à l'époque, représente la norme. Les destinées, loin d'être celles d'aujourd'hui, sont gravées dans le marbre, bien souvent dès la naissance. Évidemment, La Fontaine n'épousera pas ce chemin. Et il est assez cocasse de noter que c'est aussi grâce à ses études de droit. En effet, la pratique des juristes, sous l'Ancien Régime, dépend grandement de la bonne pratique de la rhétorique, qui sert grandement aux hommes de lettres. Le parcours de La Fontaine, donc, découle en grande partie de son parcours scolaire et familial. Aîné de sa fratrie, Jean de La Fontaine pourtant aussi entre inconstance et doute au sujet de sa vocation à venir. Il envisage même de devenir prêtre, ce qui à l'époque est assez rare lorsqu'on est le premier-né des siens, puisqu'à cette place, on hérite de son père. Les atermoiements de sa jeunesse sont donc plutôt d'ordre spirituel, mais ils le poursuivront sa vie durant. Est-il pour autant profondément croyant? C'est très difficile à dire lorsqu'on se penche sur certains de ses récits. Ce dont on peut convenir, en revanche, c'est que le jeune homme très tôt dispose d'une certaine attraction pour la solitude et la vie en dehors d'un monde qu'il ne comprend pas toujours très bien. Il intègre d'ailleurs les rangs d'un oratoire au moment de ses doutes concernant son entrée ou non dans le clergé. Et son choix, qui se porte finalement sur la littérature, est des plus révélateurs. Chez De La Fontaine, ce qui l'emporte face au questionnement de Dieu et la vie spirituelle, c'est le plaisir et la mondanité. Ce credo ne s'estompera jamais. Rabelais et les auteurs de son temps lui ont permis de faire ce choix qui le conduit à la capitale dans laquelle il va terminer ses études de droit et obtenir, en 1649, un diplôme et une fonction d'avocat au Parlement de Paris. Ouais. L'auteur n'en fera pas grand-chose, mais la fin de ses études lui permet de se libérer du poids de l'indécision. Pour un temps, du moins. Sa vie dans la capitale du royaume, qu'il apprécie d'ailleurs, est interrompue par son mariage, qui, comme nous venons de le voir, ne l'a pas vraiment marqué, c'est un euphémisme. Il faut dire que c'est son père qui est à la manœuvre et que cette union est loin d'être un mariage d'amour, qui n'est pas à cette époque la norme. Il faut dire aussi que la différence d'âge entre les deux époux est particulièrement importante. Si De La Fontaine a 26 ans, sa femme, elle, n'en a que 14. Un monde les sépare et ce fossé, jamais, ne sera véritablement comblé. De cette union naîtra tout de même un fils, le seul et unique enfant du couple, Charles, que Jean ne prendra jamais véritablement le temps de connaître. En effet, la famille basée en Champagne, dans le fief de Château-Thierry, est considérablement éloignée de Jean qui, de son côté, préfère les mondanités parisiennes aux obligations de sa vie de famille. Lors de la naissance de son fils, en octobre 1653, Jean de La Fontaine est d'ailleurs à Paris et y reste un temps. Il est alors âgé de 32 ans et ne se sent pas l'âme d'un père. Non, lui, ce qu'il fait vibrer, c'est avant tout la littérature.
Les trois trucs. Je m'aime.
Et puis, dans les salons littéraires de la capitale de France, Jean de La Fontaine ne se prive pas pour vivre quelques aventures. Bon, disons même qu'il est carrément et à 100% libertin. Les mœurs de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et déjà, ce qu'il peut écrire sur l'amour et sur la fidélité provoque quelques remous, pour ne pas dire autre chose, dans les hautes sphères. Le très catholique Louis XIV pourrait bien prendre ombrage de ce genre de texte pour le moins olé olé. Mais avant d'écrire des textes plus ou moins langoureux, le poète commence d'ailleurs par rédiger des tragédies qui ne rencontrent pas de succès. Il se dirige ensuite vers la rédaction des airs de cour, en vers et très peu en prose. Ses productions commencent à lui ouvrir des portes prestigieuses. En 1658, année durant laquelle il écrit son poème Adonis, l'un de ses chefs-d'œuvre, il est introduit auprès de Nicolas Fouquet, surintendant des finances du jeune roi Louis XIV, un homme surpuissant et particulièrement riche. Tellement qu'il est le créancier de la couronne et que sa position intouchable commence à lui valoir des ennemis. Jean de La Fontaine, près de cet homme qui devient son protecteur, s'emploie à l'art du mélange. Le vers avec la prose, un style avec un autre. Artiste charnière entre deux époques, il vit pour la préservation d'un héritage, mais aussi pour la construction de quelque chose de nouveau, de totalement novateur. Jean de La Fontaine, comme certains de ses contemporains, est une espèce d'athlète qui passe en relais. Hier, c'était l'humanisme. Demain, ce sera le siècle des Lumières. Tout cela se joue dans un temps où la littérature se veut harmonieuse et organisée de telle manière qu'elle ne peut pas connaître.